Chapitre 8. Vient-on m'objecter que chez les bons, comme chez les méchants, le plaisir existe? De leur côté, les gens infâmes ne se délectent pas moins dans leur turpitude que les hommes honnêtes dans les belles actions. Voilà pourquoi les anciens ont prescrit de mener une vie très vertueuse et non pas très agréable. Ils entendent que, droite et bonne, la volonté et le plaisir n'ont pour guide mais pour compagnon. La nature, en effet, est le guide qu'il faut suivre. C'est elle que la raison observe et consulte. C'est donc une même chose que vivre heureux et vivre selon la nature. Ce que c'est, je vais le développer. Cela consiste à conserver avec soin et sans effroi les avantages du corps et ce qui convient à notre nature, comme chose donnée pour un jour et prête à fuir. À ne pas nous y soumettre en esclaves, et à ne pas nous laisser posséder par les objets étrangers. À reléguer tout ce qui plaise au corps, tout ce qui lui survient accidentellement, comme dans les camps on place à l'écart les auxiliaires et les troupes légères. Que ces objets soient des esclaves et non des maîtres. C'est uniquement ainsi qu'ils sont utiles à l'esprit. Que l'homme de cœur soit incorruptible en présence des choses du dehors, qu'il soit inexpugnable, qu'il n'attache de prix qu'à se posséder lui-même, que d'une âme confiante, que préparé à l'une et à l'autre fortune, il soit l'artisan de sa vie. Que chez lui la confiance n'existe pas sans le savoir, ni le savoir sans la fermeté. Que ses résolutions tiennent une fois qu'elles sont prises, et que dans ses décrets il n'y ait pas de rature. On comprend quand même on ne l'ajouterait pas, qu'un tel homme sera posé, qu'il sera rangé, quand cela aussi, agissant avec aménité, il sera grand. Chez lui, la véritable raison sera greffée sur les sens. Elle y puisera ses éléments. Et en effet, elle n'a pas d'autre point d'appui d'où elle s'élance, d'où elle prenne son essor vers la vérité, afin de revenir en elle-même. Le monde aussi qui embrasse tout, ce Dieu qui régit l'univers, tend à répandre au dehors, et néanmoins de toutes parts, il se ramène en soi, pour s'y concentrer. Que notre esprit fasse de même, lorsqu'en suivant les sens qui lui sont propres, il se sera étendu par les moyens vers les objets extérieurs. Qu'il soit maître de ces objets et de lui, qu'alors, pour ainsi dire, il enchaîne le souverain bien. De là résultera une force, une puissance unique, d'accord avec elle-même. Ainsi naîtra cette raison certaine qui n'admet ni contrariété, ni hésitation dans ses jugements et dans ses conceptions, non plus que dans sa persuasion. Cette raison, lorsqu'elle s'est ajustée, accordée avec ses parties, et pour ainsi dire, mise à l'unisson, a touché au souverain bien. En effet, il ne reste rien de tortueux, rien de glissant, rien sur quoi elle puisse broncher ou chanceler. Elle fera tout de sa propre autorité. Pour elle, point d'accident inopiné, au contraire. Toutes ses actions viendront à bien, avec aisance et promptitude, sans que la gent tergiverse, car les retardements et l'hésitation dénotent le trouble et l'inconstance. Ainsi vous pourrez hardiment déclarer que le souverain bien est l'harmonie de l'âme. En effet, les vertus seront nécessairement là où sera l'accord, où sera l'unité. La discordance est pour les vices.